Je crois que ce témoignage venu de l'Amérique en crise vous aura vraiment intéressé et vous avez noté combien il est convergent avec ce qui a déjà été dit au cours de cette table ronde qui nous reste à terminer donc avec l'intervention d'Olivier Klein qui est président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, donc je crois un des partenaires, peut-être même le partenaire principal de ces journées d'économie, mais qui est aussi universitaire puisqu'il enseigne à HEC, il est responsable de la majeure économie à HEC. Et donc, c'est à ce double titre que je vais lui demander de conclure, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Leduigou n'est pas là, donc vous allez faire la synthèse du travail et du capital. Et puis, peut-être répondre à une question qui a été évoquée au cours de notre débat, l'interaction entre la croissance effective qui diminue et la croissance potentielle. Et sur un point précis, quand on regarde les comptes, on voit que le taux d'autofinancement des entreprises en France depuis 2000 est passé de 90% à 50%. Donc une baisse très considérable et régulière année après année. Et donc est-ce que ça ne risque pas de retentir sur le taux d'investissement dont nous avons rappelé tout à l'heure? Évidemment que c'est une des conditions d'une croissance potentielle plus forte. Donc Olivier Klein, je vous cède la parole à la fois pour répondre à ces questions précises et peut-être aussi pour ramasser tout ce qui a été dit dans une synthèse.
Merci beaucoup Philippe Le Fournier, bonjour à tous. Je ne vais pas faire une synthèse globale parce que je répéterai ce qui a été très bien dit et mieux dit. Quelques points peut-être au fur et à mesure de ce qui a été dit. On a bien vu que la croissance potentielle, c'était, pour faire simple, la somme de la variation de la population active et des gains de productivité. Dans la variation de la population active, on a parlé du taux d'emploi et de la durée du travail. La durée du travail, c'est de la réglementation. On peut donc l'abaisser ou l'augmenter, mais comme l'a très bien dit Gilbert Sept, il y a aussi un lien entre la durée du travail et les gains de productivité. J'aimerais simplement souligner un point, c'est que souvent on lit dans les journaux mais les gains de productivité, la productivité du travail en France est très bonne. Regardez par heure, elle est supérieure à celle des États-Unis. À mon avis, c'est une fausse lecture. Les gains de productivité par heure n'ont pas tellement d'intérêt. Comme on travaille moins, c'est sûr, on travaille mieux par heure. Mais ce qui est intéressant, puisqu'on est payé par mois ou par année, c'est de regarder la productivité annuelle. Et là, elle est inférieure aux États-Unis. Et si on prend la productivité sur l'ensemble de la vie professionnelle de quelqu'un, là, elle est très inférieure à celle des États-Unis. Donc, il faut bien mettre ça en perspective pour bien le voir. Maintenant, tout à fait évidemment d'accord sur le fait que notre productivité, par exemple, annuelle est plus faible, mais nous, on a moins de jeunes qui travaillent et moins parmi les plus âgés de ceux qui pourraient être salariés. Et c'est vrai que s'ils travaillaient, ça baisserait la productivité du travail, puisque ce sont des classes d'âge qui, pour les raisons de débutants d'un côté et d'âge de l'autre, peuvent parfois être un peu moins productifs. Mais cependant, au total, on a une mobilisation du travail en France trop faible par rapport à beaucoup de nos concurrents. Et donc, il faut arriver à la remonter pour, bien sûr, augmenter la population active et pour, de ce fait, augmenter la croissance potentielle. Une petite chose encore, c'est que, au fond, quand on dit pour augmenter les gains de productivité, il faut réformer les marchés des biens et des services, et ça peut augmenter du coup la croissance potentielle par dégagement de pouvoir d'achat, etc., sur le long terme, mais aussi vous augmentez la nécessité pour les entreprises de faire de la recherche et développement. Et ça, c'est très important, parce que si on a moins de recherche et développement en France, c'est peut-être parce que sur certains marchés, il n'y a pas assez de concurrence. Un autre point qui me semble important sur la recherche et développement, et que je pense que mes co-intervenants partageront, sur la recherche et développement, ça n'est pas en France l'argent qui manque. C'est plus exactement, il faut le différencier entre la recherche et développement public et la recherche et développement privé. La recherche et développement public, est tout à fait à haut niveau en termes d'argent. La recherche et développement privé dans les entreprises est insuffisante. Et donc, par rapport, en concurrence, hein, naturellement, entre les différents pays de l'OCDE. Pourquoi ? Mais là, il y a peut-être un problème de concurrence. Il y a certainement aussi un problème de mobilisation de la recherche et développement pour transformer ça en avancée technologique entre, et de synergie entre l'université, la recherche publique, mais qui n'est pas forcément l'université, et puis la recherche et développement des entreprises. Et c'est précisément l'objet des pôles de compétitivité, etc. Mais il faut que ça prenne effet fortement, parce que là, on a du retard, et là, on arrive moins bien à mobiliser la recherche, alors qu'on a très bons chercheurs, mais pour la transformer en croissance, précisément. Le dernier, alors un petit point encore sur cette croissance potentielle, c'est, au fond, on en a parlé aussi à plusieurs reprises, et je crois que c'est important, c'est qu'on a un déficit de croissance des PME en France. On a beaucoup de création d'entreprises, mais on n'a pas assez de PME qui grandissent et qui grandissent beaucoup. Parfois, on dit c'est parce qu'on ne les finance pas assez. Il y a un problème de financement, sans doute. Je pense plutôt, et c'est pourtant en train de se développer, qu'il y a un problème de capacité à apporter des fonds propres supplémentaires à des jeunes entreprises. Ça commence à se développer davantage, mais c'est vrai que ça peut manquer. Et surtout, les jeunes entreprises, pour qu'elles grandissent, il faut aussi qu'elles aient des débouchés. Pour avoir, là, très concrètement, et en dehors de mon rôle de professeur, contribué à développer des structures qui mettaient de l'investissement dans des entreprises, même en création, à partir de projets de recherche de chercheurs à l'université, on s'est aperçu qu'en réalité, le point de passage difficile, c'était d'arriver à trouver des débouchés. Or, il y a quelque chose qui s'appelle le Small Business Act aux États-Unis, qui est la capacité, l'obligation pour les administrations américaines d'acheter une quantité, un pourcentage non négligeable de leurs achats auprès de petites entreprises, de façon à leur fournir une demande et à leur permettre de se développer. On y a réfléchi pour l'Europe récemment. Apparemment, ça bloque sur des problèmes européens. Mais enfin, il faudra bien peut-être y réfléchir, parce que la demande est parfois plus importante que le financement. Quand il y a de la demande, souvent, il y a du financement. Le deuxième point, c'est très vite le lien entre croissance effective et croissance potentielle. Et là, ça a été très bien dit, mais il y a deux raisons pour lesquelles une croissance effective, c'est la croissance constatée, si elle est trop longtemps en dessous de la croissance potentielle, elle finit par abaisser le potentiel de croissance lui-même. La première raison, c'est parce que vous avez des gens qui sortent du marché du travail et qui parfois en sortent tellement longtemps qu'ils ne sont plus capables d'y revenir. Donc on a gâché, au sens propre du terme, des capacités d'augmentation de la population active ou de mobilisation de la population active. Et puis la deuxième, ça a été très bien dit, j'y reviens pas, c'est que si on sous-investit pendant une période, ben on a moins de gains de productivité, parce qu'il y a évidemment tous les investissements, notamment technologiques, augmentent la productivité. Et on voit bien ainsi que si on a une croissance réelle trop basse par rapport à la croissance potentielle un peu trop longtemps, on finit par abaisser le niveau de croissance potentielle. De ce fait, d'ailleurs, il n'est pas du tout sot, pour mille raisons, mais aussi pour celle-là, de soutenir la conjoncture à court terme. Soutenir la conjoncture à court terme par des politiques conjoncturelles, ça aide aussi la croissance potentielle à ne pas s'abaisser. Et donc, je voudrais aussi dire, parce que parfois je lis des choses comme cela, qu'il y a des oppositions entre politique conjoncturelle et réforme structurelle. Il n'y a pas d'opposition. La politique conjoncturelle ne suffit pas, mais elle est utile. Et la politique structurelle est indispensable sur un sentier de long terme de la croissance. Maintenant, sur les conditions des réformes, je pense que ce qui a été dit est très juste par Aguillon comme par nos intervenants ici à la table, c'est que c'est quand même un peu plus facile de faire des réformes qui, parfois, au tout début, sont un peu coûteuses. Coûteuses en financement, coûteuses parfois en difficulté tout simplement à se changer, à changer les règles du jeu. Et que c'est plus facile de faire des réformes structurelles quand on a une croissance qui tourne bien, parce que du coup, on a un peu de grain à moudre, on a un peu d'huile dans les rouages. Et donc, quand on va être obligé de faire des réformes alors que la croissance se retourne, ben, je vous donne que cet exemple-là. Pourquoi augmenter la mobilisation de la population active s'il y a moins de gens qui peuvent travailler? C'est un peu contradictoire en apparence, et pourtant, sur le long terme, c'est nécessaire. Mais ça, évidemment, ça rend un peu les choses plus compliquées, et les difficultés de bouger, de changer les choses, sont évidemment plus grandes quand on est en récession que quand on a du grain à moudre avec de la croissance et du développement. C'est pourquoi d'ailleurs la Suède et le Canada, qui ont fait des réformes exceptionnelles vers le milieu, début des années 90 et milieu des années 90, des réformes structurelles qui ont permis, leur ont permis d'abaisser leur déficit budgétaire, d'augmenter leur taux de croissance, d'abaisser considérablement leur taux de chômage, elles l'ont fait en faisant des politiques conjoncturelles macroéconomiques d'accompagnement qui leur a permis, notamment par des dévalorisations monétaires, qui leur ont permis de faire passer ces réformes structurelles et de laisser le temps qu'elles s'implantent pour en tirer les bénéfices, et ceci sans trop de heurts sociaux. Et puis je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit Gilles Berset et Aguillon sur le fait qu'évidemment, sur les relations sociales, la qualité des relations sociales sont probablement un élément important de la confiance, la confiance étant indispensable pour tout phénomène de croissance. La petite chose simplement, c'est que la confiance, ça ne se décrète pas et que c'est réciproque et que c'est très très compliqué quand on a des syndicats bloqués et parfois du patronat bloqué aussi, de trouver comment on aménage ça. Ce n'est pas si simple de changer cette confiance, c'est pire encore que de modifier de faire une réforme du marché du travail. Je terminerai par le fait qu'on a parlé de l'agenda Lisbonne. Et c'était, à mon avis, c'est peut-être une bonne façon de dire, au fond, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen ? Est-ce qu'on n'est pas plus fort pour faire des réformes structurelles au niveau européen ? Alors d'abord, il y a des pays européens qui l'ont fait, qui ne nous ont pas attendus. On est un peu en retard. Bon, ensuite, je pense qu'il y a peut-être une mobilisation, comme peut-être Obama va faire aux États-Unis, qui me semble un point de développement possible en Europe, qui permettrait d'augmenter la croissance potentielle tout en prenant en compte la limite essentielle de la croissance potentielle qui est physique au fond, c'est les capacités de la Terre en énergie, en capacité, parce qu'on n'a pas du tout parlé, mais les croissances potentielles, à la fin, il y a quand même des limites matérielles, qui sont les capacités à mobiliser des ressources naturelles. Eh bien, probablement, il y aurait quelque chose à faire au niveau européen, qui serait de faire un plan, comme il va être fait probablement aux États-Unis, qui est favorable à l'emploi, favorable à la croissance, favorable à l'environnement, c'est de faire un grand plan de développement des clean techs, comme on dit maintenant, c'est-à-dire des technologies propres, c'est-à-dire un développement industriel qui permet d'économiser l'énergie. Il y a beaucoup d'industries qui peuvent se développer sur l'économie de l'énergie dans la production et naturellement sur le développement d'énergies renouvelables. C'est probablement un champ pour augmenter ou au moins éviter que la croissance potentielle ne baisse de par les ressources naturelles elles-mêmes. Merci. Alors, j'ai pas parlé d'autofinance.
Merci à Olivier Klein et je crois que malheureusement on nous dit que nous avons mangé notre temps et que alors nous avons la place pour deux questions, voilà, parce qu'il y a, comme vous le savez, une table ronde qui suit qui va encore approfondir le problème, donc malheureusement il faut. Voilà, il y a déjà quelqu'un qui a un micro, et puis je vois une main qui se lève là-bas. Donc ce seront les deux questions. Monsieur, vous avez le micro.
Merci.
À qui s'adresse votre question ?
À Gilles Berset et Philippe Jacques Delplage, je suis intervenant juste après. Vous avez les clés de la recette pour faire plusieurs réformes, et pourquoi on ne vous écoute pas ? Pourquoi Philippe Bouillou, on ne t'écoute pas suffisamment à Bercy, et pourquoi Monsieur Gilles Berset on ne t'écoute pas suffisamment à la Banque de France. Merci.
Oui, le jugement est bien négatif, d'une part. D'autre part, sans vouloir botter en touche, j'avais le sentiment que ta question, c'était en plein dans la session suivante. Donc, on a un temps limité. Je fais partie des intervenants de la séance suivante. Donc, c'est pas que j'ai besoin d'une heure et demie pour réfléchir, mais je propose de renvoyer cette question à la séance suivante.
Voilà. Alors, le modérateur de la séance suivante est déjà là, Emmanuel Le Chip, donc il enregistre votre question, monsieur, et il y sera répondu tout à l'heure. Alors, la deuxième question qui nous avait été octroyée, monsieur, allez-y.
Oui, bonjour. Oui, je regrette moi aussi l'absence de monsieur Le Digou à la tribune aujourd'hui. Oui, je disais que je regrettais moi aussi l'absence de M. Le Digou à la tribune parce que ça aurait peut-être permis d'avoir un débat un petit peu plus contradictoire que celui qui a été tenu. Mais bon, ce n'est pas de votre faute, mais c'est peut-être à la salle maintenant qu'il convient d'apporter un peu cette contradiction par rapport à certaines choses qui ont été dites. Et je voudrais revenir, moi, sur l'exposé de M. Sett au tout début où sur le magnifique graphique qui nous a été présenté. On a, je crois, à l'horizontale la croissance américaine, et on voit que tous les autres pays sont plus ou moins en dessous de cette croissance qui apparaît un petit peu comme l'objectif à atteindre pour ces pays. Or, quand même, il faut le rappeler ici aujourd'hui, il apparaît, on le sait depuis un an et demi maintenant, que cette croissance américaine est financée par l'endettement, et que cet endettement massif, plus de 10 000 milliards de dollars pour l'économie américaine, des ménages américains lourdement endettés aussi, en tout cas avec une épargne qui est sans doute un peu en dessous de zéro, des grandes entreprises américaines également lourdement endettées, des déficits jumeaux, que ce soit au niveau budgétaire et au niveau commercial, qui sont en train de créer quand même une déflagration systémique mondiale. Et je ne sais pas si aujourd'hui les États-Unis peuvent être en matière de croissance un modèle à suivre. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième porte sur l'exposé de M. Bouilloux, je crois, à propos du marché de la grande distribution, et sur cette règle microéconomique que tout le monde connaît, plus de concurrence entraîne une baisse des prix. Je voudrais simplement donner un exemple de marché qui s'est déréglementé il n'y a pas si longtemps en France, qui est celui du 12, des renseignements. Voilà un marché qui était donc un monopole d'État, qui ne l'est plus aujourd'hui. On a vu ce marché s'ouvrir, des concurrents arriver sur ce marché. Et qu'est-ce que l'on constate? Il y a assez peu d'études de fait sur ce marché. Qu'est-ce que l'on constate? On constate que les dépenses de publicité qui ont été faites par les nouveaux opérateurs sont supérieures au chiffre d'affaires, qu'il y a un mouvement de concentration dans ce secteur qui risque de nous ramener demain à une situation de monopole ou de quasi-monopole privé cette fois-ci et pas public. C'est un exemple, je pourrais prendre aussi un autre exemple sur le marché de l'énergie où plus de concurrence ne se traduisent pas nécessairement par une baisse des prix. Voilà. Et la troisième chose que je voulais dire, Monsieur de Boissieu, je termine. Monsieur de Boissieu a posé une question qui me paraissait intéressante sur l'immigration choisie et le fait que la France devait faire appel à des travailleurs qualifiés, bien entendu, de pays étrangers. J'ai eu la chance de travailler à l'étranger dans un pays en développement pendant 5 ans, et je me souviens avoir lu dans la presse une année qu'on proposait à un jeune ingénieur de l'école Mohamedia de Rabat un poste à Rabat pour 10 000 ou 15 000 dirhams, ce qui représentait à peu près 1 000-1 500 euros. Ce qui est beaucoup au Maroc, puisque le SMIC est à 1 700 dirhams à peu près. Bon. Cet étudiant disait dans la presse qu'il choisissait de partir en France. Bon. Ça fait effectivement une ressource de plus pour la France, et ça fait aussi une ressource en moins pour le Maroc. Dans le domaine médical, c'est encore pire. Beaucoup de médecins quittent les pays en développement. On sait bien qu'il y a plus de médecins burkinabés en Ile-de-France qu'il y en a dans tout le Burkina Faso. Voilà. Je voulais savoir quel type de réponse vous pouvez apporter à cette question pertinente qui a été posée par M. de Boissieu. Merci.
Gilbert Sed va vous répondre sur la croissance américaine, et ensuite Philippe Bouilloux.
Vous avez tout à fait raison sur un point. Tout n'est pas à prendre tel quel, comme exemplaire dans le cas américain. Ce que je voulais souligner au-delà du cas américain, c'est que depuis près d'un siècle maintenant, donc ça dépasse largement les évolutions qu'on a pu observer sur les 10 dernières années, depuis près d'un siècle, les États-Unis sont un pays leader en termes de niveau de produit intérieur brut par habitant. Donc ça dépasse largement, bien évidemment, le champ des évolutions qui sont aussi caractérisées par des facteurs qui nous ont emmenés, pour certains d'entre eux, dans la situation de crise actuelle. Et vous voyez, l'idée de mon propos, c'était aussi de vous donner comme illustration qu'aux États-Unis, le bénéfice de révolutions technologiques comme celle qui est portée par les technologies de l'information et de la communication, ce bénéfice est beaucoup plus avancé que chez nous. La diffusion des technologies de l'information et de la communication est beaucoup plus forte que chez nous, ce qui est en soi pas un facteur de crise, mais ce qui est un facteur d'enrichissement en termes de productivité de la population moyenne. Pourquoi on est en dessous? Et pourquoi on bénéficie moins de la même révolution technologique? Eh bien, toutes les analyses empiriques qui ont été développées là-dessus nous disent que c'est par déficit de main-d'œuvre qualifiée, très qualifiée, et c'est par déficit de flexibilité sur le marché des biens et sur le marché du travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut flexibiliser à tout craint. On y reviendra dans le débat qui va suivre. Mais en tout cas, ce sont ces trois facteurs qui sont les facteurs déterminants dans l'explication. Et au-delà de ça, mon propos, c'était de montrer que certains pays stagnent, Certains pays stagnent en termes de produit intérieur brut relatif. C'est le cas du Portugal, encore une fois, qui est Portugal dans l'Union européenne, avec qui on partage la même monnaie, et principalement pour le Portugal par un déficit flagrant du système éducatif. Et puis d'autres pays, par contre, comme l'Irlande, ont connu des évolutions en 15 ans, évolutions hallucinantes, et quiconque est allé en Irlande à différents moments de ces 15-20 dernières années a pu constater le développement faramineux de la richesse moyenne par habitant. Vous voyez, c'est ça le message qu'il faut retenir, et effectivement, je suis d'accord avec vous pour penser que dans les évolutions qu'a connues l'économie américaine sur les 10-15 dernières années, tout n'est pas bon à prendre. Tout n'est pas bon à prendre, mais certaines choses sont effectivement à prendre.
Oui, c'est vrai, dans mon exposé, j'ai insisté sur les effets bénéfiques à attendre de la concurrence à partir des baisses de prix que cela pouvait induire et à travers le fait que la concurrence pouvait stimuler l'innovation et donc le renouvellement de l'offre. Si les réformes mises en place se traduisent par une concentration conduisant à un monopole, les résultats que j'ai évoqués sont effectivement beaucoup moins assurés et même probablement seront absents. Donc il y a évidemment toute une question sur la mise en œuvre, sur la régulation qui existe dans le secteur qu'on est en train de libéraliser et il faut faire très attention à la mise en œuvre. Mais l'exemple que je donnais, c'était, j'avais illustré mon propos à travers le secteur de la grande distribution. Vouloir plus de réformes, vouloir réformer ce secteur et vouloir y introduire de la concurrence, cela passe par la remise en cause de différents dispositifs actuels, mais cela passe notamment par le fait de permettre plus d'entrée de firmes sur le marché. Et si vous avez plus d'entrées de firmes sur le marché, en principe, cela joue bien dans le sens que j'ai indiqué. Mais encore une fois, il y a de vraies questions de mise en œuvre. Hein, il faut regarder comment cela se passe. Dans le cas de la grande distribution, on sait qu'il y a assez peu de grands réseaux, qu'il y a assez peu de centrales d'achat. On sait qu'au niveau local, il peut y avoir des situations de position dominante qui juridiquement sont difficiles à établir. Donc oui, il y a beaucoup de sujets pratiques pour qu'il y ait effectivement plus de concurrence une fois qu'on a décidé de réformer et que ça puisse se traduire par les effets favorables que j'ai indiqués. Mais quand même, ce que l'on observe, c'est que généralement, ça marche. Hein, vous avez des exemples dans le secteur des transports, dans le secteur des transports aériens, à travers lesquels on peut effectivement illustrer qu'une réforme de la concurrence qui est bien conduite se traduit par des baisses de prix.
Merci. Eh bien, dans quelques minutes, donc, reprise des débats. Ce n'était pas la dernière scène. Je crois qu'on peut remercier les intervenants et les applaudir.